On a essayé un peu des choses, un peu trop de choses même des fois. Des fois, ça allait un peu trop partout. Là. Bon, c'est sur encore de la bière ou c'est un mal plus ou moins fermenté avec beaucoup de...
Sur le comptoir de Lisanne, c'est le podcast dans lequel on parle de la bière autour d'une bière. Chaque semaine, je rencontre un ou une invitée avec qui j'explore la bière dans tous ses styles, ses influences, son évolution, son histoire et sa culture. Je suis Lisanne Desroches, brand ambassadrice Ninkasi. Dans ce hors-série, je vous amène avec moi, dans mes bagages, à la découverte de ma terre natale, le Québec. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec JF, le fondateur de la mythique brasserie Dieu du Ciel, sur l'histoire du brewpub et leur bière emblématique. Ce podcast a été enregistré dans leur pub, situé sur la rue Laurier à Montréal, pour vous donner une vraie expérience immersive.
Bonjour JF.
Bonjour, bonjour.
Alors je t'apprends rien, Dieu du Ciel est assez reconnu au Québec, au Canada et dans le monde, et surtout connu pour avoir intégré des ingrédients assez spéciaux très tôt dans la bière, comme par exemple le café ou l'hibiscus.
Ouais.
Est-ce que c'est toi qui as l'origine de cette innovation et à quel moment tu t'es dit « Ah, oh, je vais mettre du café dans ma bière ».
Ouais. Ben, oui, ça, à ce moment-là, on n'avait pas une équipe de brassage. Aujourd'hui, c'est quand même un travail plus collégial. J'ai des brasseurs qui ont même des idées et on en discute beaucoup. À ce moment-là, je renais le chaud, si on peut dire. Ça, pour le café, en fait, c'est qu'il y avait déjà quelques bières au café ou des mentions de goût de café dans la bière, mais c'était pas clair s'il y en avait ou pas. Puis moi, j'ai acheté un petit peu de café. Fait que je m'étais dit « OK, le jour, quand je vais faire une bière au café, là, on se posera pas de café. » Si on s'y va en avoir, mais fait que j'ai commencé à regarder comment je pourrais l'intégrer, quel type de café puis quel type de bière pourrait supporter aussi l'intensité du café que je veux. Puis c'est comme ça qu'on est avec la Péché Mortelle, donc une Imperial Stout au café. Puis...
qui est une des bières les plus connues de la brasserie.
C'est vraiment, c'est vraiment la bière qui nous a sorti des frontières, surtout avec qui est arrivée un peu en même temps de Red Beer, qui est comme le premier site un peu de rating populaire. À cette époque-là, on est un peu au début. Début, là, pas au début, mais le moment où on n'est pas encore des médias sociaux, mais lorsque Internet prend un tournant d'interaction, là, si on peut dire, fait que ça l'a vraiment comme fait connaître la brasserie. Puis à ce moment-là, justement, on sortait pas de nos murs. Là. Ça a été un des facteurs. C'est merde, tout le monde veut cette bière-là, je peux pas en vendre à l'extérieur. OK, ça nous a un peu mis un pied à l'extérieur de la bâtisse pour dire OK, il faut qu'on fasse d'autres choses. Donc, c'était la Péché Mortelle. Et puis, au premier racin, j'ai fait oh, on a vraiment quelque chose. L'hibiscus, ça, c'est un peu tout le travail que, comme je disais, au départ, oui, je me suis inspiré beaucoup des styles très, très traditionnels, mais maintenant, moi, tu veux comme un peu avoir ta propre identité. La beauté de la chose qu'on avait au Québec, c'est que justement, c'est qu'on n'offensait personne en créant quelque chose. Et à part la bière industrielle, il n'y en avait pas de culture, il n'y en avait pas de tradition de brassicole.
Oui, il n'y a pas de bière québécoise traditionnelle.
C'est ça. Donc, je pouvais faire ce que je voulais sans offusquer personne, dans la mesure que c'était bon, bien sûr.
Oui.
Donc, oui, par exemple, l'hibiscus, on avait l'habitude de toujours faire une bière spécial de le mondial, puis moi je connaissais déjà bien le jus de bissap finalement avec le gingembre, j'ai fait beaucoup de percussions africaines, puis bon je regardais, je suis tombé à la télé en fait, quelqu'un qui montrait comment faire le jus de bissap, puis là je regarde, je vais acheter de la fleur d'hibiscus, je vais voir que ça goûte, tu sais, puis je goûte à ça, c'est comme, ok c'est tart en tabarnouche, mais là je me fais comme, dans une blanche, je me sens que ça pourrait être oh, et la bière serait rose, hey, ça serait vraiment flyé. Oh, on fait ça pour un festival, le monde va trouver ça drôle. T'sais. C'est bien cool. Puis on va passer à d'autres choses.
Oui.
Ouais, c'est ça. On a passé à d'autres brassins, surtout.
Voilà, avec d'autres fleurs, d'autres, puis il y a des fruits. Et puis,
Donc, c'est ça. Donc, ça a vraiment créé ces gens qui ont pris ce bière-là. Donc, on a continué. Puis, effectivement, on travaille, oui, avec des fruits traditionnels comme la framboise puis la cerise. Mais après ça, on a voulu travailler avec d'autres choses. Fait que c'est un peu d'expérimenter, de chercher des épices, comme avec le poivre. Tu sais, le poivre, ça, c'est venu en faisant une recette de vin chaud à maison. Ce que j'aime bien, tu sais, j'aime bien le caractère poivré dans du vin. Puis, des fois, quand tu fais ton vin chaud, on ne se cachera pas que, surtout au Québec, avec la taxation qu'on a, on ne prend pas des grands vins à faire de ces genres de vins-là.
Non,
vaut
mieux pas.
Donc, je craque dans mon mélange d'épices à vin chaud. Moi, je craque du poivre dedans. Puis, une année, j'avais été peut-être un petit peu fort sur le poivre. Puis, mais j'aimais la chaleur que ça amenait. Je suis comme, une bière avec ça. C'est comme, ah, pourquoi pas, tu sais. Puis, on l'a essayé. Puis, ça a été un autre, comme, tout le monde fait une bière avec du poivre, c'est weird, tu sais. Mais en buvant, c'est comme, ouh, hey, c'est cool, tu sais. Fait que c'est vraiment un peu la liberté du beau pub de brasser en 500 litres. Ça nous permet de faire des choses comme ça.
Et puis, on a un peu la même chose à Ninkasi. On a également des pubs. Donc, on peut tester avec nos clients un peu les cobayes et de voir ensuite est-ce que ça plaît ou ça plaît pas, et absolument. De là dire on peut en faire une bière permanente et l'embouteiller derrière. Ouais.
Voilà, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Bon, initialement, c'est pour ça qu'on continue à brasser ici, c'est que ça nous permet d'expérimenter des choses ou de fine-tuner. On est toujours en processus de fine-tuning de nos recettes. Des fois, quand c'est vraiment mineur, on le fait à plus grande échelle à Saint-Jérôme, mais des fois, on ramène des recettes ici. On dit on va peut-être essayer de faire ci, ça, voir un peu ce que ça donne. Cette brasserie-là nous permet vraiment de faire ça. Là.
Et donc là, combien de bières de nouvelles recettes sortent par année ou Dieu du ciel, où vous restez un peu sur une gamme plus traditionnelle, entre guillemets, ou classique?
Pour les sorties en canette, c'est ça, c'est plus parce que y a tout un enjeu de distribution avec les magasins, les listings, des choses comme ça. Avec ce qu'on appelle les magasins spécialisés, eux sont super ouverts, mais en même temps, des nouveautés, ils en ont comme 100 par semaine parce qu'il y a tellement de brasseries. Fait qu'une année, c'est un marché assez difficile. Ici, c'est sûr qu'en temps de pandémie, on n'a pas créé tant parce que c'était long à vendre. T'sais. On avait juste des cruchons, des choses comme ça. Mais on a quand même développé la bière qu'on va parler tantôt, la dent de requin.
Tout à l'heure.
Qui est une IPA. Bon, c'est pas la révolution, mais c'est un peu de s'amuser sur des thèmes. Mais c'est ça. Sinon, ça va être des fois 5 à 10 bières par année. Mais comme je disais, maintenant, c'est beaucoup de. J'ai des brasseurs qui brassent maison, qui vont m'amener des idées, qui vont dire OK, puis des fois, je vais dire ça, c'est un peu moins dans ce que j'aime, mais il y a une idée là. Et puis, je trouve ça intéressant parce que, faut travailler un peu la relève, si on peut dire.
Oui.
Je peux pas. Ça alimente un peu les discussions, puis ça nous amène ailleurs. Là. Ça nous sort un peu de nos chemins habituels.
Justement, est-ce que tu penses qu'il y a encore des innovations possibles qui sont dans la bière artisanale en 2021? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les années qui viennent? Parce qu'on a déjà bien avancé, quand même.
Oui. En fait, c'est sûr qu'il y a des choses, qui est l'innovation, mais est-ce qu'il y a des grandes choses? On a essayé un peu des choses, un peu trop de choses, même des fois. Puis des fois, ça allait un peu trop partout. Là. C'est sûr encore de la bière ou c'est un mal plus ou moins fermenté avec beaucoup de sucre. Je
n'irai
pas trop là. Mais l'affaire, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, d'ailleurs, au niveau du houblon, des fermentations, c'est qu'on continue à en apprendre beaucoup. Maintenant, avec les HPLC et tout ça, on comprend beaucoup plus comment la complexité des arômes de houblon, puis comment ça réagit dans la bière avec les fermentations, avec la biotransformation, entre autres. Au niveau de la génétique des levures, on a appris dans les 10 dernières années, c'est fou ce qu'on a appris. Qu'on pensait qu'il était une levure sauvage, je ne l'ai pas pantoute finalement. Puis qu'on fermente plus juste avec du saccharomyces, mais plein d'autres levures, puis qui vont avoir des profils. Fait que je pense à ce niveau-là, il y a encore des choses qui vont s'intégrer dans la production. Après ça.
Il y a le local qui peut peut-être jouer, de se dire on utilise ce qu'on a autour de nous pour l'intégrer dans les bières.
Ouais, ça aussi, c'est comme bien utilisé. Tu sais, des fois, c'est local, il y a des places qu'il n'y a pas grand-chose à mettre dans la bière. C'est bien plate, mais c'est
local. Montréal,
oui. Oui, c'est ça. C'est comme,
ou du moins, sur la montagne, peut-être.
Ou,
mais...
tu sais, si t'es dans le Grand Nord, il y a de la roche, là, tu sais.
Oui, okay. C'est ça.
Fait que, tu sais, tu peux pas rien cueillir parce que ça prend 10 ans à pousser. Bon, tu sais, il y a cet enjeu-là aussi à considérer, là. Les Brésiliens l'ont vraiment bien fait parce que, justement, ils ont une plénitude d'épices de fruits qui est plus ou moins distribuée parce que c'est pas des assez grands volumes, que ce soit distribué ou cultivé en tant que tel, mais qu'il y a eu localement, ils trouvent un paquet de fruits qu'on n'a jamais entendu parler puis qu'ils l'intègrent dans leur bière. T'sais. Mais bon, ils sont comme bien spotés pour avoir.
Oui, ça pousse plus vite là-bas.
Ouais, c'est ça. Hein. Fait qu'il faut quand même admettre ça.
Donc, tu nous as un petit peu parlé de la bière qu'on allait déguster ensemble, que tu allais me faire découvrir. Comme je dis, normalement, c'est le podcast s'appelle Sur le comptoir de Lisanne, c'est moi qui fais découvrir une bière. Ouais. Mais là, vu que je suis invité ici, je te laisse la parole pour me faire découvrir une bière et faire découvrir à nos auditeurs une bière spéciale sélectionnée par JF.
Ouais, mais j'essayais de voir un peu sur le menu là, qu'est-ce que j'aurais pu sortir. J'aurais pu parler de l'Aphrodite Méchant, qui est une version pimentée de l'aphrodisiaque qu'on distribue en France, qui est au nom de mon ancien groupe punk quand j'étais ado. En fait, c'est une bière que j'ai brassée pour mes 50 ans. J'avais brassé pour les 40 ans aussi, mais on a fait une nouvelle version. Moins piquante, tout le monde me dit « Ouais, OK, tu t'es assagé en disant « Jouer quand même, c'est normal. » Fait qu'il y a un peu de mal fumé, le chocolat est très présent, puis le piment, ça fonctionne super bien. On est un peu sous l'inspiration du mollet là-dedans. Là, ça.
Oui.
Mais je vais parler aussi plus de la dent de requin, parce qu'on connaît bien la moralité, qui est notre IPA qu'on distribue quand même pas mal en France, qui est vraiment comme notre IPA, notre flagship, qu'on dit en bon français.
Oui. L'IPA signature.
Okay, non, ouais, signature.
Ça fait très McDonald's, mais oui.
Donc, avec quand même une bonne amertume, pas West Coast, mais c'est quand même une bonne amertume, assez résineuse, mais avec un caractère du Simcoe de Citra. Donc, on a vraiment un agrume, puis on a un caractère citronné, puis le Citra qui repunche. Ça bière-là, on la connaît bien. Mais après ça, c'est sûr que tout le monde connaît la vague là, des NEPA qui est en France aussi. Parce que là, on est vraiment sur le juicy, on est sur une bière super ronde, très, très peu d'amertume, surtout. Donc, ça, j'avoue que c'est peut-être pas mon style préféré, quoi qu'on en fait une. On en fait quand même. Puis j'essaie quand même d'avoir une NEPA qui a une certaine amertume à la fin. La Lande Requin est un peu une espèce de fusion ou de quelque chose entre mi-chemin entre la moralité et la NEPA. Puis on l'appelle un peu comme West Coast Easy ou West Coast Juicy. Là. On pourrait
drainer les deux côtes américaines.
Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu d'aller chercher le côté quand même très fruité, très avec un dry-up massif, un peu comme avec les NEPA, mais quand même avec une finale plus amère. Ouais. C'est vraiment un peu l'équilibre entre les deux, un petit peu moins d'alcool aussi, on est plus dans proche du 6 que du 7. Là. Et puis donc, c'est fait qu'on s'est amusé à faire ça, en fait, l'hiver passé, là, pendant notre deuxième lockdown. Puis, parce qu'on voulait comme un peu comme s'amuser là, sur les variantes, en fait, d'IP qu'on pouvait avoir. Puis, c'est un peu ce qu'on a sorti. Puis là, c'est notre premier brassin qu'on a fait à Saint-Jérôme pour la distribution de canettes. Puis ici, ce que je bois, en fait, c'est la version de la Dent de Requin Austral. En fait, c'est qu'on on a juste switché le Citra pour le Nelson Sauvin. Parce que c'est quand même des houblons qui ont des similitudes assez fortes. Puis on voulait s'amuser un peu entre les deux versions comme oui. ça, parce que encore la beauté du pop, c'est qu'on peut s'amuser comme ça d'une batch à l'autre. Comme notre NEPA avec une version plus ou moins rigide en canette, mais ici on a c'est un siffleux, mais ici on est rendu à 6-14 siffleux parce qu'on s'amuse toujours à jouer avec les houblons, parce que c'est la beauté du brewpub, parce qu'on peut s'amuser comme
c'est
ça.
C'est pour ça qu'il faut venir au brewpub à Montréal.
C'est pour ça qu'il faut venir au brewpub. Hein, le Canada est ouvert. Voilà.
Ouais, venez. Bon, en tout cas, effectivement, elle a une très belle couleur. Justement, on pourrait confondre parce qu'elle a un petit côté hazy qu'on retrouve. Elle n'est pas totalement translucide comme des fois certaines IPA, mais elle a une belle couleur et comme tu l'as décrit, ça se mélange juicy et puis quand même assez amer parce que les NEPA, des fois, ça peut manquer. C'est ce qui est très bon dans les NEPA, c'est que justement on dirait presque un jus de fruits alcoolisé, ouais. Mais il manque des fois un peu, ceux qui aiment l'amertume vont pas s'y retrouver, donc là c'est vrai qu'on peut retrouver un petit peu de ça.
C'est vraiment un peu c'est ce genre d'équilibre-là qu'on cherche là-dedans. Ça porte un peu à débat, là. Des fois les gens disent bah non, mais on peut pas mélanger ces styles-là. Oui, non, l'idée c'est plus d'arriver à une bière qui joue un peu sur ces deux tableaux-là à la fois. Je sais que des gens vont nettement préférer justement les NEPA parce qu'ils aiment vraiment pas l'amertume, et c'est pour ça que tout d'un coup ils aiment la IPA, mais bon, une IPA, quant à moi, ça devrait quand même toujours avoir un peu d'amertume, là, mais...
Quand même, c'est un peu la définition derrière.
Puis d'autres vont vraiment aimer vraiment soit une IPA plus comme à la moralité, ou même une West Coast qui va être encore vraiment, là, mais tu sais, un moment très, très, très amer, là. Mais c'est ça. C'est un peu ce qu'on voulait arriver. Puis, je pense qu'on n'est pas tout seul à avoir aimé ça, parce qu'on en vend vraiment beaucoup. Je te dirais qu'aux pommes, même souvent, on a de la NEPA, on a cette bière-là, puis celle-là sort quasiment en plus, tu sais. Fait que... Je pense qu'il y a quand même des gens ont peut-être demandé, ah, c'est cool, c'est pas mal, puis tranquillement, pas vite, il y a peut-être un retour du balancier là, qui se passe.
En fin de dégustation, fait là, oui.
Voilà. Je suis bien heureux de ça.
Bon. Mais merci beaucoup, JF, de m'avoir accueilli ici, de m'avoir fait découvrir un peu plus la brasserie. Ouais. Alors, pour tous les auditeurs français, on peut retrouver tes bières en France, bien entendu, parce qu'il y a un distributeur depuis déjà quelques années qui importe les bières.
Oui, on avait un petit distributeur, mais maintenant, on travaille avec DBI, qui est à Paris, mais
oui,
qui est distribué partout en France.
Partout, c'est ça. Oui, c'est ça.
Puis,
pour notre plus grand bonheur.
ça me fait vraiment plaisir de tout ça. Comme je vous disais, ça me donne plein d'occasions de me promener en France.
Ouais, il commence à avoir des salon de la bière, donc on espère qu'on va revoir les équipes bientôt sur les salons.
Ça va nous faire plaisir d'aller faire un tour.
Bon, merci beaucoup et puis à une prochaine.
Parfait, au plaisir de se voir.
Au revoir.
Bye.
C'était Sur le comptoir de Lisanne, un podcast Ninkasi Stories. Dans le prochain épisode, on reste à Montréal pour aller à la rencontre d'un auteur de livres sur la bière assez réputé dans la francophonie. Je ne vous en dis pas plus. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de partager cet épisode avec un ou une amie que cela intéresserait. Je compte sur vous. À la prochaine !